partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
À tous, Alexandre au micro, Francky aux manettes, c'est Empreinte jusqu'à 19h. Je vous donne un peu le programme. On va écouter dans quelques instants l'entretien d'Agnès avec Marianne Bassler pour un texte d'Annie Ernaux qui s'appelle L'autre fille, qui est une pièce que j'ai vue, qui est absolument magnifique. Donc je vous engage à bien écouter Agnès et à vous rendre au théâtre. Vous ne le regretterez absolument pas. Notre heure sera ponctuée de titres de l'album, le dernier album de Thierry Maillard qui s'appelle Piano Solo, qui est une pure merveille. Nous aurons la chronique d'Alain. Et puis je ferai une interview vers 13h. De la comédienne Gaëlle Billot-Dano, qui vient d'être nommée à la direction du théâtre d'Herblay. Voilà pour les nouvelles. On va tout de suite donner la parole à Agnès. Agnès, c'est à toi pour Marianne Bassler.
Alexandre, bonjour. Mon invité aujourd'hui, Marianne Bassler, qui dans un seul en scène au Théâtre des Mathurins, incarne l'autre fille, le texte écrit par Annie Ernaux, un moment de grâce. Annie Ernaux, qui en ce moment bien sûr est sous les feux de l'actualité internationale, puisque nous le savons, elle vient de se voir décerner le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Alors dites-moi Marianne Bassler, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que l'écrivaine que vous appréciez et jouez depuis longtemps venait d'obtenir la plus haute distinction de la littérature mondiale?
J'étais folle de joie. Et puis, d'autant que je n'ai pas suivi l'actualité, je ne savais pas que c'était la remise des Nobel à cette période-là. Et j'étais tellement heureuse, j'avais l'impression que c'est moi qui avais eu le Nobel. Voilà. Et les gens me félicitaient d'ailleurs. Mes amis m'ont tous dit bravo.
Alors venons-en au Théâtre des Mathurins, justement à cette pièce, l'autre fille que vous avez, c'est une reprise, hein, puisque vous, elle est en vous, hein, cette autre fille depuis 4-5 ans. Alors qui est cette autre fille? Voilà, vous incarnez donc cette sœur, hein, qui va nous parler de ce secret de famille, Marianne Bassler.
En fait, pour tout vous dire, l'autre fille, c'est moi. Comme elle le dit à la fin, l'autre fille c'est moi. Et Ginette, c'est la fille d'avant, qui est morte 2 ans et demi avant sa naissance, et dans les pas de laquelle elle a mis ses propres pas. Et voilà.
Dans quelles conditions Annie Ernaux a-t-elle écrit cette lettre en 2011?
En fait, c'est une commande d'une éditrice. D'habitude, elle écrit pour Gallimard. Là, c'est le Nil qui fait des demandes à des auteurs d'un texte un petit peu particulier, assez court. Et elle a eu envie de raconter une histoire qu'elle n'avait jamais osé raconter auparavant. Et elle s'est lancée dans cette écriture. Et, Et au départ, elle ne voulait pas que quelqu'un l'incarne, le lise même. Et elle en avait fait elle-même un enregistrement qui était adossé au livre et qui était assez étonnant d'ailleurs. J'aimerais bien le retrouver. Et donc au départ, je lui ai fait la demande d'une lecture publique, je me souviens. Et voilà. Et puis, petit à petit, elle a lâché à cette époque par rapport au théâtre aussi. Et ce texte-là, la même année que moi, deux autres actrices l'ont interprété pour la scène. Et puis il y a eu de nombreux films qui ont été adaptés de ses romans. Mais ça a été pendant ces quelques années, voilà, avec la césure du Covid. Mais on a tous démarré un petit peu au même moment.
Le texte a été coupé ?
Oui, bien sûr. J'ai fait une adaptation, j'ai rajouté très peu de mots, j'ai juste rajouté maman et Ginette. Voilà, maman en voix off et Ginette, c'est... Non, elle le dit dans le texte, elle le dit Ginette. Non, j'ai juste rajouté à maman.
Donc la pièce, enfin le texte, oui, a été déjà joué au théâtre, hein, plusieurs fois.
Oui, moi je l'ai joué, je l'ai créé à Châlons et puis je l'ai joué à Avignon. Mais comme je vous le dis, il y a eu ces deux années de Covid pendant lesquelles on s'est mis un petit peu entre parenthèses et qui a provoqué cette durée. Je suis pas sûre que je serais encore là en train de le jouer. Le hasard fait bien les choses parce qu'en fait, je n'avais pas prévu de le reprendre à Paris, pas plus que je n'avais prévu de le jouer à Avignon. Mais le désir de se retrouver sur scène et de retrouver ce texte-là était encore plus fort après le Covid, parce qu'il a rencontré beaucoup d'événements de ma vie, ce texte, comme il rencontre des événements de nos vies à tous, parce qu'en abordant l'intime, elle rejoint l'universel. Et je pense que ce texte m'était d'autant plus essentiel que j'ai connu, que nous avons connu le confinement. Et le deuil aussi, nous avons tous connu le deuil et je pense qu'à travers ce texte, c'est un long dialogue avec les absents qui s'instaure et qui m'était nécessaire et je pense qu'il est nécessaire à tous.
Bien sûr, et puis il y a tellement de personnes qui ont des secrets de famille hein, que je pense que ce texte résonne chez beaucoup.
Oui, mais au-delà du secret de famille, je pense qu'il y a la présence très forte des absents, et elle dit une très jolie phrase qui est lutter contre la longue vie des morts. Et voilà, je pense que c'est un dialogue ininterrompu avec la mère, avec la sœur qui était l'objet de l'amour de la mère, et qu'elle n'a cessé de tourner autour de ça. Elle a écrit pour elle, elle le dit contre elle, pour sa mère. Et l'objet de tout l'amour de la mère a aussi été cette autre fille, cette espèce de rivale sur laquelle elle n'a cessé de s'interroger, qui a fini par faire l'objet de ce livre.
Donc Marianne Bassler, dans ce Seul en scène, eh bien vous nous lisez cette lettre justement qui s'adresse à une sœur disparue. Et qui tente de la faire revivre. Lorsque Annie Ernaux donc a écrit ce texte en 2011, elle avait 60 ans.
Bah, elle avait 10 ans de moins.
70 ans, je pense déjà. Et c'est pas une lecture. Vous dites, vous nous lisez. En fait, c'est pas du tout une lecture. C'est-à-dire que Marianne, c'est totalement fondu dans le personnage d'Annie Ernaux, dans cet auteur qui s'interroge, qui se vit, elle vit, elle revit. Moi, je vois la pièce quasiment tous les jours et je suis totalement étonné par le fait qu'elle est, c'est quelque chose qui lui appartient totalement d'une certaine façon et qui fait qu'elle le vit tous les jours d'une manière différente et tous les jours en le réinventant. C'est pas du tout une lecture, on est très très loin
c'est
de la lecture.
C'est une création presque, une création de personnage.
On a l'impression de voir un auteur en train de s'interroger sur sa vie, sur ce secret de famille justement qui a complètement bouleversé son existence.
Oui, plus une réflexion.
Et qui la poursuit, voilà.
Oui, c'est Jean-Philippe Puymartin, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes donc le metteur en scène de L'autre fille qui se joue actuellement au théâtre des Mathurins. Merci, parce que de par vos mots, vous nous expliquez encore mieux le spectacle, ce spectacle, cette performance d'une heure qui fait revivre justement cette sœur disparue. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que justement, vous nous parlez d'une création d'un personnage qui est là devant nous.
C'est la création du personnage, et puis c'est cette interrogation de l'auteur face à la page blanche, mais traduit au théâtre, traduit avec des mots, traduit avec on a en face de nous cette représentation de l'auteur qui s'interroge elle-même sur sa vie, sur ses morts, sur cette sœur disparue dont elle n'a jamais entendu parler, dont personne ne lui a jamais parlé, et qu'elle connaît par hasard, en fait.
Est-ce qu'il y a, beaucoup d'amertume dans la vie de cette femme? Enfin, on peut dire quoi? On peut dire Agnès Ernaux, on peut dire le narrateur, l'autre fille, la sœur. Est-ce qu'il y a énormément... On peut dire Agnès Ernaux. Est-ce qu'il y a beaucoup de tristesse, d'amertume, de violence?
Oui, il y a de la violence, mais il n'y a pas d'amertume. Il y a beaucoup de gaieté, en fait, aussi, de force, de violence. Oui, elle en parle beaucoup, de la violence qu'il y a en elle. Mais c'est l'acte d'écriture, en fait. En fait, effectivement, Jean-Philippe dit que ça n'a rien à voir avec une lecture. Oui, elle ne lit pas cette lettre, elle l'écrit. Elle s'interroge sur le pourquoi de cette écriture. Peut-être que j'ai voulu te faire revivre et remourir pour être quitte de toi, de ton ombre. Elle s'interroge sur cette sœur, sur le pourquoi du silence et sur le pourquoi de l'écriture. Pourquoi elle veut s'adresser à elle? Pourquoi elle veut lui écrire une lettre? S'interroge sur ça. C'est un acte d'écriture et une interrogation sur l'acte d'écriture.
Comment est-ce qu'Annie Ernaux a pris connaissance de la disparition de cette sœur?
Comme elle le dit dans le texte, par hasard, en entendant sa mère en parler avec une cliente, et elle réalise qu'elle devait déjà l'avoir su un jour. Et moi, j'ai été à la rencontre de ça à travers cet événement, d'une certaine manière, l'oubli qu'on lui en avait déjà parlé. Et moi, je sais qu'on m'a déjà parlé de quelque chose que, enfant, j'ai oublié et que j'ai enfin entendu bien des années plus tard, quand j'étais déjà adulte et davantage.
Marianne Bassler, est-ce une performance d'incarner cette fille et de jouer un texte d'Annie Ernaux dont la langue est...
Je n'incarne pas... c'est Annie Ernaux. Mon personnage, c'est vraiment Annie Ernaux. C'est à la première personne. Donc, incarner Annie Ernaux, ce n'est pas du tout une performance. C'est la volonté d'aller au plus près des mots qu'elle raconte, de s'interroger et, à travers son interrogation, m'interroger moi-même. C'est vrai que je suis je voyage en parallèle dans son écriture.
Pensez-vous que ça peut donner justement envie à nos auditeurs de redécouvrir l'œuvre d'Annie Ernaux?
Ou de la découvrir. Il y a des gens qui viennent et qui ne connaissent pas l'œuvre d'Annie Ernaux et qui se mettent à la lire. C'est pas toujours une œuvre si facile. Et je pense que c'est une porte d'entrée sur son œuvre. Ça a été la mienne, en tout cas.
Jean-Philippe Puymartin. Alors, la mise en scène sobre.
Oui.
Une porte, finalement, un bureau.
Une table, une chaise.
Voilà, une table, une chaise. Vous avez voulu justement représenter une certaine sobriété?
Oui, parce qu'il y avait... l'important, c'est l'actrice et c'est les mots et c'est l'auteur. Voilà, tout le reste, il y a juste le mystère qu'il peut y avoir derrière cette porte. Donc tous les on a traité les sons de manière très ténue, très secrète, très voilà, tout se passe derrière cette porte et qu'est-ce qui se passe derrière cette porte, voilà. Mais sinon moi ce qui m'a étonné pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que effectivement l'engouement et l'intérêt pour Annie Ernaux est de plus en plus évident à travers aussi cette pièce. Je remarque ce soir par exemple qu'il y avait beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes aussi, alors que les spectateurs d'Annie Ernaux, enfin, de ce genre de texte, sont plus d'un certain âge. Et là, tout d'un coup, il y avait beaucoup de gens, de jeunes de 30 ans ce soir.
Merci beaucoup, Marianne Bassler. Merci, Jean-Philippe Puy-Martin. C'est donc merci l'autre fille d'Annie Ernaux. C'est jusqu'en décembre, je crois. Hein,
On prolonge même, je pense, bien janvier.
Janvier, très bien. Donc,
parce que ça marche.
Les auditeurs peuvent aller redécouvrir ce texte magnifique d'émotion, de profondeur, de sentiment que vous incarnez vraiment à merveille, Marianne Bassler. Merci beaucoup. Et vous jouez donc ce soir à 19h.
Je joue ce soir à 19h, oui.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Voilà, merci beaucoup Agnès pour cette interview. Marianne Bassler est une comédienne magnifique. Annie Ernaux a écrit un texte absolument remarquable et allez, c'est jusque, je crois, fin janvier en tous les cas, au Théâtre des Mathurins. On va écouter un morceau de l'album de Thierry Maillard en piano solo qui s'appelle « Une larme de pluie ». Voilà, c'était un titre de l'album, le dernier album de Thierry Maillard, Une larme de pluie. Il est en piano solo. Ce sont des compositions magnifiques, très calmes, très qui vous mettent qui vous plongent dans des ambiances un peu de rêverie à certains moments. Achetez-le. Thierry Maillard sera en concert, mais avec ce groupe, cet orchestre de femmes. On en avait parlé ensemble dans quelques temps. Je vous rappellerai la date la semaine prochaine. Une douzaine de femmes qui viennent d'horizons classiques au niveau chant et qui, sur les compositions de Thierry, ont créé un langage musical, je vais dire, absolument étonnant. En tous les cas, cet album, c'est Une larme de pluie, Thierry Maillard. On est ensemble jusqu'à 19h sur IDFM Radio dans Empreinte. Je vais vous livrer maintenant la chronique que j'ai reçue de notre ami Alain Blondel, qui est bien sûr toujours à Toulouse. Et puis nous réécouterons bien sûr après un morceau de l'album avant de parler avec Gaël Biot-Dano. La chronique s'intitule « Les affres du chroniqueur ». Bon, ça commence plutôt bien. Après, c'est waouh. Alors, j'ai lu quelque part qu'à la première leçon, on enseignait à l'apprenti journaliste qu'une chronique doit avoir des phrases intéressantes qui se combinent pour former des paragraphes fascinants avec une orthographe impeccable. Bon, sauf qu'en radio, la dite orthographe est invisible. La banalité des propos doit être rehaussée par un incessant et surprenant taraudage du signifié. Les propos, m'a-t-on signifié en haut lieu, seront boulimiques et disparates dans leur fécondité. Ils devront traiter en priorité les côtés obscurs de l'être humain où s'entremêlent jalousie, cupidité, harcèlement, envie, insensibilité, bêtise, violence, vengeance. En quelque sorte, une sinistre chasse aux sorcières. Tout cela va finir par faire croire à une satanesque chasse aux sorcières. Va des rétro, Satanas, avec ton omniprésence sulfureuse. À l'écoute de ce préambule, certains penseront que j'écris dans le vide insondable l'imbécilité satisfaite. Ils ne seront pas loin d'avoir raison. Dans l'actualité, on nous bassine qu'il faut économiser la fée électrique. Alors pourquoi ne pas faire jouer les rencontres de foot et de rugby les après-midi, en diurne, comme au temps de ma jeunesse? La réponse de notre ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a répondu dans un jargon qu'on affectionne les technocrates. Je cite « Reporter les matchs en diurne est une mesure impossible qui se heurte aux réalités du modèle professionnel conçu pour rendre un produit attrayant aux chaînes de télé. » Nous y voilà. Rentabilité, c'est moi qui l'ajoute. Sic. Pendant la longue pandémie de la Covid, le pouvoir ne s'est guère soucié de heurter les télés. Pendant un an, les matchs ont été annulés. Il y a quelques siècles, un lucide écrivain, auprès d'une fontaine, a écrit « Selon que vous serez, etc., etc. » Tout le monde connaît la suite. Cette année, c'est un couillon de boutiquier, quelque peu étourdi, oublie d'éteindre une loupiote dans sa vitrine. Il sentira passer la douloureuse. Merci Alain pour cette chronique qui est toujours à la fois acerbe mais en même temps pleine d'humour. On écoute tout de suite un nouveau titre de l'album de Thierry Maillard, Une larme de pluie. Vous êtes toujours dans Empreinte sur IDFM Radio. Thank you. Gaëlle ?
Oui.
Oui, bonjour, c'est Alexandre au micro.
Bonjour.
Donc,
Alexandre.
Gaëlle Biodanou, on va parler de vous en tant que comédienne, bien sûr, mais vous avez une actualité importante, qui est la direction du théâtre d'Herblay.
Oui. J'ai cette chance de reprendre la direction de ce très...
Qui est un très beau théâtre.
Très beau lieu.
Ouais, qui est un très beau lieu. Je peux vous demander comment ça s'est fait, je veux dire, est-ce que vous avez postulé, est-ce qu'on est venu vous chercher et vous le proposer en deux mots, comment ça s'est passé cette nomination?
Alors en fait, ça a été un peu, ça a été un petit peu entouré de d'une chose qui est liée directement à mon histoire personnelle, parce qu'il y a à peu près un an.
Oui.
Oui, ça fera presque un an, puisque c'était le 28 novembre, ma mère est décédée, Jacqueline Dano.
Ben oui.
Comédienne et chanteuse.
Magnifique
que
chanteuse.
Certains d'entre vous connaissent certainement.
On la connaît, et à IDFM, on la connaît beaucoup, parce qu'Alain Blondel, qui a fait pendant des années des émissions sur la chanson française, l'adorait.
Bon, voilà. Alors donc voilà, donc et mes parents habitent Herblay depuis avant ma naissance, sont herblaisiens.
D'accord.
Moi j'ai grandi à Herblay, j'ai fait toutes mes études à Herblay, donc c'est un petit peu ma ville en fait.
Bien sûr.
Et les choses sont arrivées un petit peu par rapport à ce théâtre au moment du décès de maman, donc j'ai aussi pris ça comme un signe.
Ah oui, effectivement, oui.
Parce que en fait, Philippe Rouleau, qui est notre maire et qui est très féru de culture, pour qui en fait le théâtre et la culture en général sont très importants, m'avait un petit peu suivi aussi, avait suivi la famille et connaissait un peu mes parents, mais m'avait suivi moi un peu de loin comme ça.
D'accord.
On se connaissait sans se connaître. Il avait appris aussi que j'avais programmé pendant 3 saisons le théâtre de Conflans-Sainte-Honorine.
Ouais.
Et donc il regardait un petit peu ça de loin. Et en fait, c'est lui qui a pensé à moi pour la direction du théâtre. Alors évidemment, après, j'ai passé des entretiens. Enfin, ça c'est un peu
non, mais ça,
façon
bien
beaucoup
sûr.
Plus
oui, oui,
formelle. Mais en tout cas,
c'est
lui qui est à l'origine de cette idée d'être venu déjà m'interroger sur mon intérêt, sur est-ce que j'avais envie de prendre la direction du théâtre.
Sûr, bien sûr.
Et puis après, évidemment, j'ai suivi le circuit classique sur des entretiens, etc. Mais c'est lui qui a pensé à moi en premier, c'est vrai, et c'était lié directement au départ de maman, je pense.
D'accord.
Donc j'ai pris
d'accord.
ça aussi comme un signe.
Oui, tout à fait. Parce que c'est pas forcément un désir que vous aviez, du moins à ce moment-là, enfin à part ces,
j'avais énormément apprécié faire la programmation
d'accord.
culturelle d'un
ouais,
lieu quand
ouais,
j'avais fait
ouais.
ça à Conflans.
Ouais.
Mais bon, comme étant aussi toujours artiste et toujours un petit peu sur les routes,
bah
c'est
oui.
vrai que...
C'est comment lier les deux, en fait. Hein.
Voilà, pour moi, le plus important était de pouvoir continuer aussi à
oui,
être
bien sûr.
Artiste.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est ce qu'a compris aussi Philippe Rouleau et puis toute son équipe. Et c'est ça que j'apprécie aussi. C'est-à-dire que ils ont eu dans l'esprit de se dire, si on choisit un artiste à la tête d'un lieu, on sait aussi que on laisse une forme de liberté aussi à
bien
cet
sûr.
Artiste.
Bien sûr.
Et c'est ça qui permet aussi d'offrir au théâtre une autre forme de rayonnement.
Donc du coup, vous êtes vraiment dans une ambiance optimale, j'allais dire, sur tous les plans. Est-ce qu'on peut parler un peu de la programmation et peut-être de quelques spots dont vous voulez, sur lesquels vous voulez nous alerter au niveau de la programmation d'Herblay, Gaëlle?
En fait, moi, quand je suis arrivée, la programmation de la saison qui a commencé, elle était déjà pas complètement faite, mais enfin déjà très avancée par l'équipe en place. Et c'est une programmation sur laquelle je suis totalement en phase. Et c'est exactement dans cet esprit-là que j'ai envie et que je suis en train de programmer et de préparer la prochaine saison, puisque je suis déjà en train de me pencher là-dessus, évidemment.
Je me doute.
Écoutez, en fait, le il y a un petit clin d'œil, c'est que je vais jouer la journée de la jupe.
Oui, on va en parler. On va en parler.
Deux représentations, donc le 24 novembre, c'est-à-dire que c'est une date qui approche. Je vais jouer la journée de la jupe au théâtre d'Herblay.
C'est formidable.
Voilà, et donc ce sera rempli d'émotions parce que d'abord, bah, c'est le théâtre que je dirige maintenant, mais aussi parce que ce sera la fin de la tournée, la fin de l'aventure, la journée de la jupe, qui a été une aventure magnifique.
On va en parler donc, un peu plus longuement, Gaëlle. Parce
donc,
que c'est,
mais pour parler plus largement de la programmation, bah là, le 16 novembre, il y a un très joli spectacle d'un théâtre plus contemporain qui s'appelle Istiklal sur la transmission, une création de Tamara El Saadi que je conseille vivement les auditeurs de venir voir.
Et
puis en fait, il y a vraiment une programmation pluridisciplinaire. C'est ça qui est intéressant, c'est que chacun y trouve son compte, à la fois du théâtre contemporain, des choses plus accessibles, des humoristes, du théâtre visuel, de la danse. Enfin, vraiment, on s'inscrit dans un théâtre à la fois accessible et en même temps exigeant.
J'ai l'impression, Gaëlle, que avec les nouvelles, enfin depuis 2, 3, 4 ans, les nouvelles directions, que ce soit au 14, que ce soit peu importe les endroits, mais il y a ce changement et il y a cette envie de mélanger dans le bon sens les genres, c'est-à-dire de pas rester simplement sur du théâtre comme ci ou comme ça, mais de mélanger les genres entre théâtre plus classique mais monté d'une façon probablement plus contemporaine, texte contemporain, et puis de faire venir d'autres types d'artistes, notamment le ballet, c'est important, faut avoir la scène pour ça, mais voilà. Et est-ce qu'il y a de la musique programmée aussi?
Oui, bien sûr, il y a de la musique. Ben là, d'ici la fin de l'année, on a Jérémy Frérot qui vient au théâtre. L'année prochaine, on aura, enfin, en début d'année prochaine, on aura Amel Bent, mais on a aussi un partenariat avec Jazz au fil de l'Oise.
Bien sûr.
Voilà, chaque année. Et puis, on a aussi un grand rendez-vous qui est un rendez-vous qui avait été mis en place par Janie Lalande il y a 30 ans, qui était la directrice du théâtre à l'époque et qui est un théâtre, qui est un rendez-vous qui est capital pour nous et que direction après direction perpétue, c'est l'opéra auprès des plus jeunes.
Ouais, c'est vrai.
Et donc chaque année, au mois de mai, il y a un opéra familial autour duquel on fait toute une action, voilà. Et oui, il y a évidemment des rendez-vous.
C'est
musicaux,
bien, c'est bien de continuer ça. Moi, je l'avais connue, c'était une femme merveilleuse, une remarquable directrice effectivement de théâtre.
Oui, tout à fait.
Je parle de ça il y a des années. Moi, je parle du Festival de Val d'Oise. J'allais dire pas le plus récent, parce que là, j'ai une collaboratrice qui y va, mais du temps du regretté qui était à Avignon également, je cherche son nom, Alain Léonard, qui était une personnalité aussi assez étonnante, qui était quelqu'un aussi de très bienveillant. Il était toujours là, il s'arrangeait pour être là à toutes les premières, toutes les générales, des choses qui avaient été programmées, même pour une soirée. Il était, moi j'aimais beaucoup cet homme. Après, voilà. Et dans la partie plus précise de cette fin d'année que vous avez programmée au niveau de théâtre, Gaëlle, qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors au niveau théâtre, ben donc il y a la création de Tamara El Saadi dont je vous parlais, qui parle vraiment du transgénérationnel chez les femmes au Moyen-Orient, et c'est très très intéressant parce que c'est très fort. Il y a donc la journée de la jupe le 24 novembre.
On y va y venir.
Il y a le bonheur des uns de Côme de Belsize.
Ah oui, je connais, j'aime beaucoup ce qu'il fait, Côme.
C'est extra ce qu'il fait vraiment. Là c'est sur l'injonction au bonheur, combien la société nous dit faut être heureux, avec le tout ce qui est développement personnel, etc. Donc ça c'est vraiment succulent.
Il a beaucoup de talent.
Ça, c'est le 8 décembre.
Il a beaucoup de talent, ce garçon. Moi, j'avais découvert, comme beaucoup de gens, je crois que c'était dans le concours, en tous les cas au Théâtre 13, il y a des années, on l'avait accroché tout de suite. Sa femme est une très très bonne comédienne également. Et c'est vrai que je les ai toujours suivis. Il y a des gens avec qui on accroche comme ça, pour des tas de raisons, le talent d'abord, mais la personne aussi, c'est important.
Il est vraiment, c'est quelqu'un qui a une très belle humanité, Côme. Et puis ce qu'il fait en plus avec cette compagnie du théâtre du Fracas qu'il a créé avec Vincent Jonquez.
Oui, c'est ça. Vraiment, voilà, Vincent, cherchez son nom, Vincent Jonquez.
Vraiment, c'est super. Après, on a un spectacle de cirque moderne familial très visuel qui s'appelle Play Replay de la compagnie Rat Pack, qui est vraiment très chouette. Ils avaient fait un spectacle qui avait été un grand succès qui s'appelait Speakeasy.
J'avais vu ça parce que Rat Pack, ça me disait quelque chose. D'accord.
Voilà.
D'accord. C'est très
beau.
Donc
c'est sur la thématique du cinéma, enfin voilà, c'est très chouette. Et puis le, et puis après tout début janvier, mais c'est vraiment un spectacle que j'encourage tout le monde à venir voir. C'est un théâtre d'effets spéciaux qui s'appelle Dimanche, oui, une compagnie qui est un mélange entre une compagnie qui s'appelle Focus et Chali Waté. Et c'est vraiment sur le dérèglement climatique, mais c'est complètement fou. C'est un théâtre d'objets.
Ça c'est formidable, oui. Ça c'est
vraiment
formidable.
Voilà, c'est à voir en famille. Donc ça c'est les prochains rendez-vous. Et
d'accord.
Puis voilà, après on va avoir des succès de Molière, on va avoir la course des géants, on va avoir aussi Guillaume de Tonquédec qui est tellement talentueux et adorable.
Ah, il est étonnant.
Dans Times Square.
Ah, il est étonnant, oui, oui. Et voilà. C'est formidable, Times Square, hein. Ça, je dois dire. Non, mais ce garçon est tout à fait surprenant. Moi, je l'avais découvert aussi. C'est bien. Et vous terminerez l'année au printemps avec des événements spéciaux ou des choses un peu particulières.
Alors, on a aussi pas mal de seuls en scène parce que ça plaît beaucoup à notre public.
Bien sûr.
Et en fait, on est aussi assez exigeant sur les choix des seuls en scène. Et là, donc, on va terminer la saison avec Alex Vizorek.
Bon, c'est une très bonne idée. C'est
voilà.
Une très bonne idée. J'aime bien Jérémy Frérot, votre choix de musical aussi des deux. Vous m'avez dit Amel Bent, c'est ça?
Oui, parce que Amel, elle revient avec un concert un peu plus intimiste, sur scène, sur son album qui s'appelle Vivante, qui est un très joli album et on est ravis de la recevoir. On va avoir François-Xavier de Maison dans son seul en scène autour du vin qui s'appelle Divin.
C'est presque une institution de Maison, hein, je veux dire. On l'attend presque chaque saison, en tous les cas. Voilà, c'est une découverte. Ça a été un ovni au départ.
Et, oui.
Parce qu'il n'était pas du tout fait pour ça, je veux dire. Hein. C'est lui qui était, je crois que si je ne me trompe...
Il était trader
aux États-Unis, donc c'est bien. Il a pu mettre comme ça plein de sous de côté pour se lancer là-dedans. Il a été très, très aidé par un garçon qui est producteur, qui est comédien, dont j'ai oublié le nom, j'ai beaucoup connu dans le 11e.
Qui a été son producteur au début.
Ils ont bossé comme des fous.
Ça, ils m'échappe aussi, alors voilà.
Ouais, ils travaillaient jour et nuit, je sais, à côté d'un endroit où j'étais dans le 11e, ils allaient chercher des sandwichs ou des pizzas, et c'était des bosseurs, et voilà, la réussite est là, hein, quand même. Il faut du temps.
On va aussi avoir l'Andromaque de Robin Renucci.
Renucci
qui nous avait fait l'amitié de venir à la présentation de saison parler de son Andromaque avec tellement de cœur et en fait c'est une de ses dernières créations au Tréteau de France.
Oui.
Maintenant il a pris la direction du Théâtre de la Criée à Marseille.
Ce qui est très bien.
Et c'est un magnifique Andromaque et il est tellement inspiré et inspirant, Robin Renucci, vraiment. Si on veut voir une belle tragédie de Jean Racine mise en scène merveilleusement avec intensité, il faut vraiment venir voir Andromaque, quoi.
Je suis tout à fait d'accord. J'en reparlerai. On peut dire au passage que c'est lui qui dirige l'ARIA, c'est-à-dire les rencontres théâtrales en Corse.
Oui, en Corse, tout à fait.
C'est un rendez-vous là aussi à ne pas rater l'été si on est dans la région. Alors, il faut aller en Corse d'abord, c'est magnifique. On a du théâtre, il y a un festival de guitare aussi tout à fait étonnant avec des affiches somptueuses. Donc, il faut bouger, il faut se balader. On va marquer une pause musicale, Gaël. Restez avec nous. Dans Empreinte, c'est un autre titre de ce jazzman Thierry Maillard, pianiste, qui est quelqu'un d'absolument talentueux. Écoutez-le avec nous et puis on reparle tout de suite après.
Parfait. Thank you.
Voilà, Gaëlle, vous êtes toujours là avec nous.
Oui, bien sûr.
Vous avez aimé ce piano?
Ah oui, c'est très beau. Très beau.
C'est un garçon étonnant. Il s'appelle donc Thierry Maillard. Ça fait des années qu'il fait des disques, mais il ne se cantonne jamais dans un genre. Il joue en trio. Il est capable de diriger un grand orchestre à l'américaine, de jouer avec des femmes et des voix incroyables. Et là, moi, j'aime énormément cet album parce que tout d'un coup, le retrouver dans un album solo où il est comme ça avec son piano, il y a une espèce d'intimité. On goûte les compositions. Ça incite à rêver. Ça incite au calme. Je trouve que c'est un très, très grand, très, très grand musicien. Donc, je le recommande à tout le monde. Ça s'appelle Une larme de pluie. C'est Thierry Maillard. Alors, dans Empreinte sur IDFM Radio, on reprend notre conversation, qui finalement n'a pas été interrompue. On a juste écouté de la musique ensemble. Alors, pour venir un peu à votre carrière, moi, j'ai juste coché 4 dates, mais je voudrais qu'on en parle. D'abord, je voudrais revenir. Moi, je me souvenais pas en 2015 des Cavaliers. Qu'est-ce que vous avez fait dans les Cavaliers?
En fait, j'ai assisté à la mise en scène Éric Bouvron et Anne.
D'accord, c'est ça. J'y suis maintenant. Voilà.
Voilà, je les ai assistés sur les Cavaliers, sur la création des Cavaliers. Ça a été vraiment magnifique parce qu'en fait, c'est vraiment aussi, je dirais, ce qui a propulsé quelque part Éric Bouvron.
C'était remarquable. Avec trois fois rien.
Oui. Et c'était tellement une réussite. Et puis c'était tellement surprenant aussi dans le théâtre privé.
Oui, tout à fait.
De voir cette forme qui était différente, inspirée, originale, physique aussi, très dans le physique, dans le corps, et dans le travail de l'imaginaire.
Oui.
Et ça a été ce qui a vraiment déclenché cette mise en avant de...
Oui,
d'Éric,
qui continue maintenant, qui a fait plein d'autres choses.
Oui, oui, reconnu, et son tout dernier spectacle sur Laurence d'Arabie est absolument magnifique.
Oui, tout à fait, je suis absolument d'accord avec vous. C'est vrai qu'il est hyper talentueux, mais c'est vrai que là, ça a été une découverte. On savait pas trop comment ça allait pouvoir être fait. Tout le monde connaît le livre. Alors c'est toujours pareil, quand on a des souvenirs de lecture, etc., faut un peu laisser ça de côté et se plonger dans quelque chose qui est une aventure incroyable, qui était d'une poésie aussi formidable et qui a tout de suite rencontré effectivement son public.
Oui.
Alors,
exactement.
En 2017, moi, personnellement, mais je sais que je ne suis pas le seul, en 2017, vous avez joué un texte de Pinter qui s'appelle Trahison.
Oui.
Que j'ai dû voir au Lucernaire, je pense.
Exactement. On a dû, c'est ça.
Et qui était, vous aviez deux partenaires magnifiques. Vous formiez là
François
vraiment un
Ferroletto
trio.
François Ferroletto et Yannick Laurent.
Oui, c'est ça. Rappelez-moi qui avait fait la mise en scène.
Alors, la mise en scène a été faite par un jeune metteur en scène qu'il faut continuer de suivre parce que, il continue son travail et il va refaire des créations et on a un autre projet ensemble.
Très bien.
Il s'appelle Christophe Gant.
Oui, formidable, oui.
Christophe Gant, oui. Et ça a été une rencontre. Moi, ça a été un bonheur, cette pièce, et parce que d'abord, on a vraiment rencontré un public enthousiaste, plus qu'enthousiaste, au Théâtre du Lucernaire, où vraiment, pour une des rares fois, le Lucernaire nous a programmé deux fois dans la même saison parce qu'on a affiché complet, donc ils ont voulu nous reprogrammer dans la même saison. On a fait deux festivals d'Avignon complets aussi.
Alors,
ça a été vraiment un montage de ce Pinter qui a été...
Vous savez, Gaëlle, moi je me souviens qu'on en a parlé à l'époque et que moi qui ai les deux cultures, c'est-à-dire britannique et française, et qui donc connaît bien Pinter, mais surtout monté en Angleterre, et je parle pas évidemment des créations qui étaient assez étonnantes, qui étaient faites dans les années 60-70 avec des comédiens incroyables, etc. Mais là, je me souviens qu'on en avait parlé, que je vous avais dit, c'est la première fois que je vois, comment dire, une adaptation d'une pièce de Pinter qui d'abord est extraordinairement ludique et bien jouée et intelligente, mais surtout qui est comme si c'était pratiquement du théâtre anglais et non pas une espèce de francisation ou d'adaptation à la française qu'on essaye de faire ou dans laquelle certains, même avec du talent, se font piéger. Et que là, on était vraiment dans quelque chose d'à la fois mystérieux, parce que c'est quand même très très mystérieux et très étrange, Pinter. Mais du coup, ça prenait une clarté et une évidence incroyable. Et ça,
oui,
c'est...
puis je trouve qu'il y avait une sensualité dans ce qu'avait monté.
Ah oui, 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 tout à fait.
Aussi.
Tout
parce
à fait.
Ça, ça pouvait paraître un peu paraître parfois un peu cérébral, Pinter.
Ça l'est souvent. Ça l'est souvent, mais il faut peut-être oser d'autres choses, justement. Faut peut-être aller plus loin. Il a jamais dit qu'il fallait pas y aller plus loin. Mais en tous les cas, là, c'était vraiment. Vous auriez envie de le reprendre plus tard ou pas, ou ça pourrait se faire ou pas?
Pourquoi pas? De toute façon, il y a pas. De toute façon, souvent on demande aux acteurs, mais quel est le rôle que vous avez préféré? Vraiment en étant, mais vraiment honnête, c'est pas du tout non, je suis très très sincère en disant ça. J'ai aimé profondément chacun des rôles que j'ai joué, donc j'aimerais profondément tous les reprendre à un moment donné ou à un autre. J'aimerais reprendre Un très moi nommé Désir, j'aimerais reprendre Célimène et le Cardinal.
Ah, c'était formidable ça.
Et même si j'ai des envies de nouveautés, évidemment, à chaque fois, mais
bien sûr.
Voilà.
Mais passer un certain nombre de temps peut avoir plaisir justement à retrouver un rôle comme ça. Alors, on va venir à l'actualité. Vous allez jouer au Théâtre National de Nice.
Oui.
Une pièce qui s'appelle La dernière lettre.
Tout à fait.
Alors, vous pouvez nous en parler un peu parce que je dois.
Oui, parce qu'on joue en plus bientôt. On joue soirs.
C'est le 8 novembre.
8 et 9 novembre.
Oui, oui. Donc ça approche.
8 et 9 novembre, on joue. Voilà, je suis extrêmement heureuse d'aller jouer au Théâtre National de Nice.
Ben oui.
Bon, hors les murs, hein, puisqu'il est.
Oui,
voilà.
Oui.
Mais cette pièce, c'est une pièce que j'ai jouée cet été au Festival d'Avignon, une pièce écrite et mise en scène par une autrice, metteuse en scène que j'aime beaucoup, Violaine Arsac.
Oui, je connais.
Qui est une habituée aussi du Festival d'Avignon.
Oui, j'ai vu des choses d'elle, oui.
Et j'ai repris en fait un rôle cette année à Avignon dans cette pièce. Cette pièce qui est extrêmement intéressante et en même temps extrêmement palpitante, construite vraiment comme un thriller judiciaire.
Ouais.
Qui parle d'une thématique que je ne connaissais pas, qui s'appelle la justice restaurative, qui existe en particulier dans les pays où la peine de mort existe encore.
D'accord.
Et qui sont en fait des associations. C'est une thématique, une thématique portée par des associations qui s'occupent de mettre en lien les meurtriers et les familles des victimes.
Oula, ah ouais, c'est quand même
quelque chose. Pour essayer d'apporter à chacun
chose d'étonnant.
Une paix et une forme de résilience.
Ouais, voilà.
C'est très beau. C'est une pièce qui, évidemment, sous fond de justice, parle aussi du pardon.
Naturellement.
Et de la libération que peut accorder ce pardon.
Oui.
D'un côté comme de l'autre. Et c'est vraiment construit et mis en scène comme un polar américain.
Formidable. Est-ce qu'on a des chances de l'avoir sur Paris, en région parisienne plus tard?
Alors, en région parisienne, on joue à Villeparisis le 29 novembre. Le mardi 29 novembre, on joue à Villeparisis.
Ouais.
On jouera à Saint-Maurice, je crois que c'est en région parisienne aussi.
Ouais, c'est pas tout près quand même.
C'est pas tout près non plus. Donc pour l'instant, il y a une tournée qui est prévue aussi la saison prochaine.
Bon, bah alors
donc,
on verra.
Il est fort possible qu'on revienne. À Paris, pour l'instant, c'est pas prévu.
Non, mais Paris, ça peut être en proche banlieue. Enfin, je veux dire, il y a quand même.
Voilà, pour l'instant, il y a Villeparisis. Dans les dates les plus proches, il y a Villeparisis.
D'accord, ok.
Voilà, qui se présente. Et c'est une pièce que j'avais vue, moi, en tant que spectatrice à Avignon l'année dernière, puisque je n'en faisais pas partie. Et je m'étais dit, mais quelle réussite, j'aimerais tellement jouer dans cette pièce.
Et
j'ai eu la chance de reprendre un rôle dans cette pièce.
Mais Gaëlle, vous n'avez jamais arrêté, finalement, au théâtre. Je veux dire, vous avez, dans le bon sens du terme, enchaîné des pièces et des rôles plutôt difficiles. Je crois que ça vous convient parfaitement, avec, malgré tout, même si vous les avez tous aimés, il y a des rôles qui sont probablement peut-être plus marquants pour des tas de raisons que d'autres. Et là, je viens à la journée de la jupe. Je crois que celui qui a fait la mise en scène est celui qui avait réalisé le film.
Alors pour être totalement exact, celui qui a fait l'adaptation.
Oui, pardon, l'adaptation.
Pour le théâtre est le réalisateur, c'est-à-dire Jean-Paul Lilienfeld, qui est un homme vraiment adorable, enfin que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est quelqu'un de très talentueux et en même temps quelqu'un de très audacieux, parce que c'était pas évident quand il a fait ce film. Il a eu beaucoup de mal à trouver des producteurs pour le suivre parce que c'était pas un sujet politiquement correct.
C'est clair.
Aujourd'hui, on voit combien, encore 15 ans après, ce sujet est d'actualité, malheureusement.
Bah oui. De plus en plus, peut-être.
Voilà.
Même, d'ailleurs.
Et quand on passe dans les banlieues, quand on fait des représentations auprès des scolaires, combien ça résonne et combien on peut échanger avec eux, et c'est passionnant. Et d'ailleurs, à l'issue de la représentation qu'on va faire à Herblay, il y aura aussi encore un bord de plateau.
Mmh.
Voilà, où on pourra échanger avec les gens.
Oui, c'est important. Je crois que c'est très important.
Il y aura aussi des scolaires.
Alors, Gaëlle, mais est-ce que vous avez eu, non pas la trouille, mais est-ce que vous êtes quand même posé la question de vous dire je plonge au théâtre, même si vous aviez vu le film avec Adjani.
Ouais.
Bon, je pense que c'est aussi ça a pu être fait parce que il y avait à l'époque, enfin pour le film, Isabelle Adjani qui était tout à fait étonnante. Alors pas étonnante pour ceux qui la connaissent vraiment parce qu'elle a un fond de sauvage, enfin de violence, qui peut être absolument invraisemblable.
Ouais. Alors, bien sûr.
Donc vous, Gaëlle, comment est-ce que vous êtes, glissé dans ce rôle? Et je sais que vous êtes magnifique, mais est-ce que c'est un rôle là qui, malgré tout, est particulier parce qu'à chaque fois qu'on le joue, ça laisse des marques ou des empreintes, ou c'est quand même un rôle particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose là de l'ordre de l'ordre.
Bah, c'est important pour moi de donner du sens aussi dans mes choix de plus en plus, mais je le fais pas de façon, je dirais, réfléchie.
Oui,
c'est plus instinctif en fait. Et le film m'avait tellement plu, donc quand Frédéric Fage, le metteur en scène, m'a proposé, après m'avoir vu justement dans Trahison de Pinter, m'a proposé de reprendre le rôle, de créer, parce que ça avait jamais été créé au théâtre. Le rôle de Sonia Bergerac, donc cette femme, cette prof qui, au bout du rouleau, finit par prendre en otage ses élèves. J'ai pas hésité un instant parce que pour moi, il était nécessaire de porter ce sujet parce que c'est ancré dans une réalité, dans ce qu'on vit. Et puis en même temps, on parle toujours de la nécessité d'amener un nouveau public au théâtre, d'amener les ados au théâtre, mais pour une fois, on leur apporte un sujet qui, heureusement ou malheureusement, fait partie de leur quotidien aussi.
Vous avez répondu, Gaëlle, mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce que c'est un rôle qui vous a profondément ou marqué ou troublé ou d'une façon différente parce que c'est un rôle particulier. Et je me demandais,
ça laissait
des traces, quoi.
Oui, il fallait laisser des traces. Je ne sais pas si ça laisse des traces, parce que je pense qu'avec les années et avec le métier, on apprend aussi
de plus en plus à
réussir à se protéger un peu dans des rôles.
Parce que c'est secouant quand même. Hein.
Un engagement sur scène.
Oui.
Mais c'est un rôle qui me marquera de toute façon.
Voilà, c'est
parce qu'il résonne à plein d'endroits. Et puis une dernière chose pour laquelle il me marquera aussi, je vais vous le dire là aussi, c'est un partage très intime que je vous fais, c'est que le dernier jour où ma maman était vivante, je jouais cette pièce le soir et elle est morte dans la nuit.
Oh là là.
Et on a dédié cette représentation, j'avais demandé à tous ces jeunes merveilleux qui partagent la scène avec moi, de dédier cette représentation à ce qu'ils appellent la daronne.
D'accord.
Et ils m'ont dit, d'accord Gaëlle, ce soir on va jouer pour la daronne, parce que moi je savais que les heures étaient comptées, et on a joué pour la daronne, et elle s'est éteinte dans la nuit. Donc pour ça, encore plus, ça gardera.
C'est magnifique, enfin tout ça c'est plein de signes. On va malheureusement se quitter pour l'instant Gaëlle, parce que l'heure tourne vite, qu'on a partagé plein de choses comme ça. Moi j'étais très heureux. J'espère que la prochaine fois, on se retrouvera en vrai, j'allais dans la vraie vie.
Venez le 24 novembre, Alexandre, vous êtes mon invité.
24 novembre,
hein.
C'est très gentil. Je suis pas certain de pouvoir venir à ce moment-là. Et puis, vous viendrez vous aussi la prochaine fois. On se débrouillera pour prendre des rendez-vous à l'avance, pour vous venir à la radio, parce qu'on s'est pas vu depuis un moment.
Oui.
Et voilà.
Et le temps passe vite.
Donc, très belle saison pour le théâtre d'Herblay. Moi, je leur donnerai de temps en temps la programmation. Très belle représentation à Nice pour la journée de la jupe à Herblay. C'est important. Et la suite, on se tient au courant. Vous me tenez au courant, Gaëlle.
Bien sûr, Alexandre. Merci beaucoup.
et puis voilà. Et merci infiniment d'avoir été avec nous. Et vous savez que là aussi, quand je dis ça, je suis sincère. Je crois qu'on partage,
partagé
des vraies émotions.
Pour votre fidèle accompagnement.
C'est pas. Ça me fait très plaisir. À bientôt, Gaëlle.
À bientôt, Alexandre.
Voilà, merci à Gaëlle Billaud-Dano. On se quitte avec un dernier morceau de l'album de Thierry Maillard, Une larme de pluie. Je vous rappelle que, à la suite de notre émission, vous avez Radio Latina, et que demain, à 18h, il y a l'émission de Laurence Ducournau, qui s'appelle Entre chien et loup? Pardon. Je sais pas pourquoi, c'est aussi un titre d'émission, Les mots et des livres, qui est une remarquable émission aussi. Donc, restez avec nous un peu, et dans la culture et dans la distraction, sur IDFM Radio, c'était Empreinte.